Aval, dans laquelle on reçoit des comités de notre association étudiante, des professionnels et des membres de notre faculté afin de démystifier les divers domaines du monde juridique. Tu as toujours voulu savoir si les études en droit étaient dignes de Legally Blonde? Tu te demandes si les avocats ont vraiment une carrière comme celle que tu vois dans Suits? Tu es simplement intéressé par l'actualité et le domaine juridique? Tu es donc invité à la barre pour écouter Droit de parole tous les jeudis de 13h à 14h sur les ondes de Chiz 94.3.
C'est le printemps à l'Impérial Belle. Le 13 avril, laisse-toi entraîner par l'univers festif et désinvolte du Petit Béliveau. Le 14 avril, c'est Lou Adrian Casti qui va t'impressionner avec sa présence scénique envoûtante. Viens voir Petit Béliveau et Lou Adrian Casti les 13 et 14 avril à l'Impérial Belle. Billets en vente au impérialbelle.com.
Et au Québec, c'est Thierry Larose. Mon nouvel album Sprint est maintenant disponible en magasin et sur toutes les plateformes d'écoute.
Est-ce que tu sens ton cœur battre dans ta poitrine?
Bonjour, je m'appelle Ludovic Dufour, vous écoutez Chiz 94.3, la radio des étudiants de l'Université Laval.
Bon début de semaine à tous et à toutes, ici Madame Demeule en direct des studios de Chiz 94.3. C'est Chérie J'arrive qui débute à l'instant. Nous vous accompagnons jusqu'à 17h30 et je dis nous car je suis bel et bien accompagnée en studio de ma co-animatrice du jour, Amy Lapointe. Bienvenue.
Salut, salut.
Je spécifie pour les auditeurs et les auditrices que tu as fait un clin d'œil dans le micro. J'espère que vous l'avez reçu dans vos véhicules et dans votre maison. Aujourd'hui, avec toute l'équipe de Chiz, on revient sur le festival Regard qui prenait place dans les derniers jours au Saguenay. On est allé visionner beaucoup de courts-métrages pour vous et prendre de bien belles photos. Restez à l'affût de nos réseaux sociaux pour voir nos belles facelettes. On s'entretient également à propos de l'exposition et des artistes visuels qui vient de prendre place à l'Université Laval. Amy, c'est toi qui nous en parlera un peu plus en première partie d'émission.
Oui. L'exposition en fait, qui est organisée par des étudiantes en histoire de l'art qui est présentement possible de visiter au Desjardins. Donc, même pas besoin de se rendre dans un pavillon lointain.
Pas besoin de marcher jusqu'au Vendry, par exemple. En fin d'émission, on soulignera les 15 ans du collectif de théâtre Nous sommes ici. C'est Alexandre Fecteau qui sera au bout du fil avec nous pour nous parler de ce qui s'en vient pour le collectif et regarder en arrière aussi, ça fait quand même 15 ans que nous sommes ici et dans le milieu. Et puis, au travers tout ça, regard, théâtre, art visuel, Amy et moi, nous vous partagerons, en fait, quelques suggestions de films et de livres. Nous sommes deux personnes qui regardons et lisons beaucoup, Amy. En général, quand on se voit, c'est un peu de ça qu'on parle aussi. Hein?
Moi, je regarde plus que je lis, mais ouais.
Ah ouais? OK, moi, je lis plus que je regarde.
Je lis les critiques, mettons, sur Letterboxd, mais c'est pas mal ça.
On a chacun notre créneau. Alors moi, tu vois, j'ai apporté deux belles choses dont je parlerai un peu plus tard. En ouverture d'émission, avant de recevoir Gabriel Tremblay et Émilie Rioux, qui ont pris part à Regard dans les derniers jours, c'est la plus récente de Pastel Barbeau qu'on va écouter. Ça s'intitule « Microcosme » sur les ondes de Chiz 94.3.
Thank you.
De retour à Chérie, j'arrive sur les ondes de Chise 94.3. C'est un lundi qui commence en force et qui commence bien entouré. Je suis heureuse d'être avec une bonne partie de mon équipe autour de la table. Je suis habituée d'être un peu seule en studio, parfois sans fenêtre. Mais là, j'ai été bien accompagnée tout le week-end aussi. On était au Festival Regard au Saguenay-Lac-Saint-Jean, aussi connu sous le nom de Mont-Houd.
Et c'est vrai!
Je viens donc d'être rejointe par Gabrielle Tremblay et Émilie Rioux, qui Bonsoir. M'ont accompagnée durant Salut. Ce festival. Allô, bienvenue allô. À vous. Comment allez-vous?
Ça va très bien. Est-ce que tu termines ton week-end, tout le monde?
Tout le monde, la gang!
encore fatiguée. Même si regarder des films, ça semble moins exigeant que danser dans un festival.
Ouais.
Je suis brûlée, moi, là.
Oui, ben ça demande beaucoup d'attention et de concentration, hein. C'est surtout mm-hmm. ça. C'est un autre type d'énergie qu'on met en
oui.
place.
Puis avec le cours, ça va être court, ça va vite, puis ça nous fait vivre toutes sortes d'émotions en montagne russe.
Oui, d'ailleurs, c'est pour ça que je suis arrivée short à l'émission aujourd'hui. C'était pour faire honneur
dans le thème.
Oh. Voilà.
Elle court.
Nous revenons donc de la 27e édition du Festival de court-métrage. C'était la 27e édition du Festival Regard, qui est un festival fort en Amérique du Nord pour le film.
C'est le plus gros festival de court-métrage en Amérique du Nord. Il n'y en a pas d'autres. Mm-hmm. Il n'y en a pas d'autres d'aussi grandes, d'aussi vastes, et qui avait une programmation aussi touffue. Il faut dire que c'est la 27e édition. On approche du 30 ans pour Regard, pour un festival de court-métrage, pour un festival d'un style, ou en tout cas d'une forme de film qui est si peu représentée. Moi, je trouve que c'est un exploit quand même phénoménal d'avoir toujours été en croissance aussi pour le Festival Regard. Ouais. Et bon, nous, on arrive tard dans l'histoire de Regard, dans les faits, parce qu'on sent, en arrivant là-bas, qu'il y a des gens qui sont là depuis le tout début. Je pense que ça a été quand même très, très souvent noté.
Exact. On est arrivé en fait jeudi soir là, pour faire un tour d'horizon en bonne et due forme. Mais oui, puis je veux dire, ça mobilise tellement de gens. Je suis coutumé et envahi là, pour le meilleur.
Oui.
Puis que ce soit un festival d'envergure hors des grands centres, bien joué, que le monde aille en région.
Tout à fait. Et donc, je pense que c'est ce qui fait en sorte qu'il y a un appât du gain, donc qu'il y a surtout une attirance des gens. Il n'y a pas un appât du gain, je dis le gars. Non, mais qu'il y a une attraction, c'est ça que je voulais dire. Il y a une force d'attraction des gens vers Regard depuis plusieurs années. Je pense que tous les deux, vous en aviez entendu parler avant même d'y aller.
Plusieurs années que je voulais y aller
exact,
aussi.
Exact. C'était votre baptême. Moi, c'était mon deuxième. Donc, je pas dire non plus que je suis une vieille routière. Là. C'est un festival qui me faisait beaucoup envie et qu'à ma deuxième expérience, je peux dire que j'ai confirmé mon coup de cœur, finalement. Vraiment.
On va comparer un peu nos expériences en tant que novice et j'allais dire qu'amatrice, Émilie, mais bon, tu as deux éditions derrière dans le comptable.
Puis je vais peut-être dire d'emblée que j'ai un statut un peu spécial à Regard parce que j'anime des projections. Alors, je suis également partie de l'équipe. Donc oui, j'étais là comme spectatrice pour aller voir des films, mais j'étais également derrière le rideau à présenter certaines programmations, certains programmes de films. Alors, je le vois également un peu de l'intérieur.
Oui, t'as une expérience qui est un peu différente de la nôtre. Et pour ma part, c'était la première fois à Regard et moi, je pensais que je n'allais voir que des films. Ouais. Dans ma tête, un festival de cours, on présente des cours. Tu sais, un peu comme un festival de musique, je vois rien que des shows.
Ouais.
Mais non, c'était faux. Il n'y a pas que des films à Regard.
Et surtout pas que des nouveaux films.
Effectivement.
En effet. Mais parmi les activités que j'ai bien appréciées, il y avait les classes de maîtres, et c'est celle à laquelle j'avais hâte d'assister. Bon, faut dire que Philippe Falardeau était malade finalement, donc Martin Lyon, pour la musique de film, était là.
A pris une relève.
Ouais. Il y avait une classe de maîtres sur la musique de film, qui est quand même un truc auquel on pense pas tant que ça dans la vie, là, tu sais. Quand elle est pas là, on s'en rend compte. Mais...
Tout à fait. Puis, je pense que j'écouterai pas un film de la même manière non plus en imaginant tout le travail qui est en arrière. Mmh. Martin Lyon nous présentait des scènes de film silencieuses, c'est-à-dire sans musique. Ajoutait des versions qu'il avait envoyées à Philippe Falardeau pour ses films. Puis après ça, il changeait, il nous montrait les autres versions. Voici comment tout à coup, on a l'air d'être dans une autre émotion pendant cette scène. Puis l'effet est saisissant.
Ouais, tout à fait.
Et on reçoit des anecdotes succulentes comme celle de Ennio Morricone où Martin Lyon est parti sur un coup de tête en Italie rejoindre Ennio Morricone pour travailler avec lui.
Apprendre à écrire de la musique.
Ouais. Apprendre l'italien aussi en amont. Mais
sur un coup de tête, là, il allait faire des cours intensifs d'italien pendant 2 mois et demi. Hein, ensuite, tu pars. Bref, c'est le genre de choses que je m'attendais pas d'apprendre ou de découvrir pendant Regard.
Juste avant, et ça, c'est la deuxième journée de Regard, troisième journée de Regard. Il y avait donc notre ami Francis Leclerc, qui est un réalisateur, qui est à la page en ce moment parce que, bon, il y a Le Plongeur qui est à l'affiche et qui obtient beaucoup de succès, beaucoup de couverture médiatique. Et il était pas seulement là pour parler du Plongeur, évidemment, mais c'était une conversation d'une heure avec Francis Leclerc, animée par Manon Dumais, éminente journaliste de cinéma pour Le Devoir. Et on a pu voir un peu c'était quoi son évolution, découvrir que Francis Leclerc a commencé par faire des vidéoclips. C'est comme ça qu'il a commencé à faire du cinéma. Belle porte d'entrée quand même, lorsqu'on y pense. Et,
c'est vrai, c'est du cinéma.
Ben, c'est tout à fait.
Les vidéoclips de Kevin Parent.
De Seigneur de Kevin Parent.
Non.
C'est lui, c'est Francis Leclerc qui a réalisé Seigneur de Kevin Parent, entre autres.
C'est ça, c'était quand même une très belle discussion enrichissante et complètement loufoque aussi par moment où ce qu'il disait, ben, l'école, c'est de la merde. Puis lâchez l'école, entourez-vous d'amis, puis créez-vous une famille cinématographique, c'est ça la clé. Alors qu'on était dans un cégep, dans une bibliothèque de cégep, c'était fascinant.
Beau paradoxe.
Fascinant, mais oui, quel personnage, quelle carrière aussi, là. Il y a du métier, s'il vous plaît.
Puis on a aussi eu un témoignage de la part d'un cinéaste sur ses inquiétudes quant au cinéma, au grand écran, parce que ça aussi, c'est quand même quelque chose qui est publiquement discuté. Donc, l'avenir du cinéma québécois, déjà, qui est un peu incertaine, mais d'avoir quand même l'orientation puis l'analyse de quelqu'un qui travaille activement là-dedans et qui a du succès aussi dans le cinéma québécois. Je pense que ça a changé un peu notre perspective et ça nous a beaucoup. En tout cas, moi, ça m'a beaucoup touché d'avoir ce témoignage-là quand même.
Si lui est inquiet, c'est dire que.
On devrait l'être.
Ouais, c'est ça.
Ouais, vraiment.
Mais c'est ça. Donc, il y avait ça. Il y avait plein d'activités parallèles également, plein de 5 à 7 qui nous permettaient d'être plus festifs, de dégourdir les jambes, de parler aux gens aussi, de danser un petit peu.
Breuvage chaud, DJ set, poutine sur le side.
Oui.
C'était vraiment trippant.
Des fins de soirée également où il y avait des stunts d'artistes.
On s'attendait pas à ça. Moi qui chronique lutte depuis quelques semaines, il y avait de la lutte à Regan.
On a manqué comme des pauvres, mais c'est pas grave.
Narcisse, qui est allé jouer un band de Québec qu'on apprécie beaucoup à Chiz. Rose, qui était là aussi. Naomi, qui est signée avec Bravo Musique. Donc, il y avait de belles surprises qui nous attendaient pendant les soirées.
Ouais. Il y a eu du drag king, du burlesque, un numéro de piano un peu loufoque, dans des moments très, très tard en soirée. Donc, on voit que les gens sont encore allumés jusqu'à 2-3 heures du matin, puis ils sont encore prêts à en prendre. Là. C'est ça qui m'a le plus étonnée dans le public de Regard, si on peut en parler un peu de cette espèce de public-là, parce qu'on est, comme tu le disais, assez habitué aux festivaliers musicaux, hein. Ceux qui sont l'été, ben ça brosse, qui font du camping. Bon, on vous voyait un petit peu le profil, il y a toutes sortes de monde, évidemment, là, j'essaie de faire un persona de festivalier.
Non, c'est bon, on sait que c'est ça.
On comprend. Sentez-vous visé. Mais à Regard, on dirait que le public est très, 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 je dirais, disparate. Il y a toutes sortes de monde, mais il y a aussi beaucoup de cinéastes dans la salle. Donc, et j'ai trouvé que c'est des gens qui avaient une belle qualité d'écoute, mais aussi un beau côté festif. Je sais pas, Gabriel, qu'est-ce que t'en as pensé, mais moi, par exemple, d'entendre des gens taper des mains sur le rythme, sur une musique de publicité dans les bandes-annonces, là, tu sais.
Ouais, c'était vraiment, vraiment le fun. Autant à Jonquière que Chicoutimi, parce qu'on se rappelle, le festival est sur deux villes en soi. Ouais. Là. Dans toutes les salles, ça faisait le party. Mais à la fois, c'était très, très, très attentif aussi, comme public. Et autant, tu sais, parce que c'est un amalgame entre Montréal, les grands centres, la communauté.
L'international, il y a des gens d'Italie,
il y a du monde de partout,
de
l'Amérique du Sud.
Oui.
Quand les réalisateurs, les réalisatrices viennent présenter leur film avant la projection, ben il y en a qui s'adressent en anglais, on entend les accents, il y a vraiment des gens de partout là, qui viennent à Regard.
Ouais. Un des gros aspects importants d'un festival de films aussi, on a tendance à l'oublier parce qu'à Québec, on n'a pas beaucoup de festivals de films, en tout cas, pas ces temps-ci. Mais reste que c'est les cinéastes, tu viens de le nommer en fait, puis je pense que c'est une partie importante de pouvoir voir, mettre des visages, entendre les témoignages ou anecdotes des cinéastes qui viennent le présenter, qui nous mettent en contexte, qui nous mettent dans le bain un petit peu pour savoir comment recevoir leur œuvre. Ouais. Et on dirait que moi, ça change un petit peu ma manière de l'écouter, le film. Toi, regarde, t'en écoutes le reste de l'année, tu sais, chez vous, sur ton laptop. C'est quoi la différence avec le fait d'avoir justement ce volet-là en festival?
Justement, les projections commentées, je trouve que c'est la force de ce festival-là parce que, effectivement, j'en écoute à l'année longue et tout ça, mais sur un short de quoi, 20 minutes, 25 minutes, on n'a pas l'espace non plus pour le commenter. Donc là, en festival, on consacre du temps pour ça avec en plus les cinéastes et ou les comédiens, comédiennes. C'est sublime. Puis on a justement l'arrière-plan, l'arrière-scène de c'est quoi ce film-là, tu sais? Surtout d'avoir des cinéastes d'un peu partout dans le monde. T'sais. Autant la programmation Short and Queer qu'on avait des gens de toutes sortes de milieux, même tu sais, du Portugal, du Brésil. Le programme Americana qui était 100% consacré à des films d'Amérique latine.
Ah, c'était vraiment touchant parce qu'on a eu un représentant justement du festival qui programmait, qui était invité à programmer tout le volet Amérique du Sud, Americana. Et c'était d'entendre, je me souviens pas de quel pays il venait, t'es souviens-tu?
La Colombie, c'était le festival du court-métrage de Bogota.
Voilà, merci.
C'était le programmateur.
Donc le programmateur qui, à la toute fin de son élocution, nous a dit « N'oubliez pas, nous sommes tous des Américains. C'est pas l'Amérique. L'Amérique, ce n'est pas qu'un pays. Wow. L'Amérique, c'est vous, nous. En fait, c'est les deux autres, donc le Canada, l'Amérique centrale, l'Amérique du Sud. Donc c'est tout ça. Mm-hmm. Et j'ai trouvé que c'était vraiment rassembleur. Mm. Et tout ça, en fait, de voir des films de travers le monde, local et international, je trouve que c'est rassembleur, puis que ça nous remet en perspective nous notre manière de faire du cinéma par rapport à celle qui est faite partout dans le monde. Ça m'a vraiment marqué.
Oui, c'est ça. Vas-y, Maxou.
Puis dans tous ces types d'activités-là, 5 à 7, les classes de maîtres, les tête-à-tête, il y a la rétrospective aussi, où j'ai trouvé que c'était une sacrée belle idée de revenir sur la carrière d'un ou d'une comédienne, de présenter plusieurs courts-métrages dans lesquels il a joué. Cette fois-ci,
dans ce cas-ci, c'était Steve Laplante.
Exactement. Puis que les réalisateurs des shorts soient là aussi pour parler pendant, puis dire, ça, on a fait ça avec peu de budget, c'était dans tel appartement, ça, c'est le chien de ma mère.
J'avais le streptocope dans le tournage, me pliant en quatre.
Donc, d'avoir accès à ces anecdotes-là, comme on le fait avec les artistes, avec les musiciens, en fait, je suis habituée de l'entendre à la radio, ça, dire, j'ai écrit tel tourne, il est arrivé telle affaire en studio.
Mais au cinéma, c'est rare.
C'est ça, j'ai rarement accès à ça pour les film. Donc, ça m'a fait plaisir d'avoir accès à l'arrière-scène du monde du cinéma aussi.
Et en terminant, peut-être les dernières mondiales, qui est la première projection qu'on a été voir, qui est quand même assez particulière, c'est que c'est des films vieux, Je disais que c'est pas que des nouveautés, là. Souvent, on ressort des vieilles reliques. Et là, c'était pas les premières mondiales, c'était les dernières mondiales. C'est-à-dire qu'on vous les projette une fois, ensuite, on les met dans les voûtes et on veut plus jamais en entendre parler. Voilà. Et c'était peut-être le pire du meilleur cinéma de l'époque, commenté de manière tout à fait, détachée, en autodérision. Je pense qu'on.
Assumé par les cinéastes qui étaient là puis qui commentaient leur propre cochonnerie au final. Là,
c'est pas super des fois.
Exactement. Il y en avait, c'est difficile de
même le pire était pas pire.
Exact. C'est un peu ça, c'est de voir un peu entendre les cinéastes. On les entend rarement. Ouais. Ce sont ceux qui sont derrière la caméra en tout temps. Puis on dirait que leurs œuvres parlent pour eux, mais là, de leur donner la parole, de pouvoir les entendre, de pouvoir considérer tout ça dans notre analyse, dans notre regard sur le film, ça change quand même pas mal la dynamique. Fait que je remercie Regard d'organiser tout ça autour des projections de films. Et aussi de se prêter à l'exercice, mon Dieu, assez bordélique, j'imagine, de construire une programmation comme celle qu'on a eue en fin de semaine.
Oui. Ça y penser, ça me donne de l'urticaire, mais bravo.
Bien là, j'ai hâte que vous nous lisiez. Donc, demain, sur le schiz.ca, vous pourrez connaître
mercredi,
nos urticaires.
Finalement.
Mercredi,
oui, parce qu'on laisse le temps d'aspirer. Oui, voilà.
Voilà, je viens de respirer. mais donc, pour avoir nos coups de cœur, pourquoi? Parce qu'en ce moment, dès aujourd'hui, Regard est en ligne. Exact. Donc, vous aurez l'occasion d'en reparler un petit peu plus tard, évidemment. Mais ça sera donc à surveiller pour les gens qui l'ont manqué.
Oui, et c'est à 16h30 que là, Mémo Gauthier nous rejoindra pour parler de ce qui s'en vient avec Regard, de même que les sélections de films qu'on a bien appréciées. Pour le moment, c'est d'art visuel dont on va parler tout de suite après une nouveauté de Bless. L'album Normal sortait vendredi dernier. Pendant que nous regardions de courts-métrages, voici le titre Gants noirs sur les ondes de Schiz 94.3.
Plus fort aujourd'hui encore, je suis plus fort.
De retour à Chérie, j'arrive, vous entendiez Gants Noirs, une chanson de Bless. C'est sur leur plus récent album, c'est paru vendredi dernier. Normal pour ce groupe qu'on aime découvrir depuis quelques mois déjà. Amy, ma co-animatrice du jour, toujours présente en studio, nous le disait en début d'émission, c'est d'art visuel dont on va parler. Et encore une fois, la table est bien remplie. C'est un beau lundi, en tout cas dans nos studios à Chise. Myriam Dufour et Angélie Richard, bienvenue en ondes.
Merci. Bonjour.
On vous reçoit artiste à titre, dis-je, certes d'étudiante à l'Université Laval, mais également d'artiste visuel. Et Amy, oui.
Eh bien, non. Mais peut-être que vous avez pas de pratique. Peut-être que vous avez une pratique artistique. Je veux pas la nier. Là. Mais en fait, elles sont co-commissaires.
Wow.
Ouais. Est-ce que c'est quoi mettons une co-commissaire pour les gens qui sont comme nous.
Oui, vulgarisons.
Oui, parfait. Le travail de commissaire, en fait, c'est quelqu'un qui va organiser une exposition, donc il va penser le narratif de l'exposition. Co-commissaire, c'est seulement pour indiquer qu'on était deux à faire ce travail commissarial.
Non, c'est ça, pas commissaire de police. On ne reçoit pas de policiers en nombre à chaise. Oui, donc l'exposition qui a commencé, c'était votre vernissage la semaine dernière. Ouais. L'exposition qui a comme titre... Très bon titre, très bon thème. On va revenir. Memento Mori, Regard sur la fin, F-I-N. D'abord, comment vous allez? Parce que ça fait plusieurs années que les étudiants de Sort de l'Or montent des expositions. Les thèmes sont toujours aussi lourds. vous ne faites pas exception. Qu'est-ce qui vous a... Mais c'est mon préféré dans les dernières années, je ne vais pas vous mentir. Qu'est-ce qui vous a amené vers ce thème-là? Est-ce que c'est du... T'sais, d'où ça vient?
Ben, Anne-Julie et moi, on a tout le temps été vraiment intéressés par les sujets dramatiques. ma maîtrise, en fait, je la fais sur les ruines, sur la question du temps qui passe, comme Anne-Julie, en fait. Donc, on a vraiment des intérêts communs. On travaille pas sur les mêmes artistes et tout, mais c'est entre autres pour ça qu'on a choisi cette thématique-là. Les deux, ça nous intéresse vraiment.
Oui, puis je pense que le choix de la mort s'est imposé parce que c'était à la confin de nos sujets de recherche, mais aussi parce que c'est un thème qui était très large puis qui permettait en fait d'aller chercher un grand nombre de pratiques variées. C'est une exposition qui se monte à partir d'un appel de dossier, donc on demande à des artistes visuels de nous envoyer des propositions, puis on voulait que ce soit une thématique qui puisse rejoindre énormément de personnes.
Puis c'était pas seulement la mort humaine. T'sais. On voulait vraiment mettre le mot la mort, mais les artistes pouvaient l'aborder à leur façon. Mm-hmm. Ça pouvait être la fin, la mort d'un lieu, la fin de toute chose, mais vraiment pas seulement la fin d'une vie humaine.
Mm-hmm. Puis est-ce que vous avez reçu beaucoup de dossiers? Est-ce que tout le monde pouvait postuler ou faut, mettons, être étudiant à l'Université Laval? C'était quoi vos critères pour pouvoir déposer un dossier?
Tout le monde peut déposer un dossier, mais nous, dans notre projet, il faut qu'il y ait une majorité étudiante qui participe. Donc, on a reçu beaucoup de dossiers, là. On était vraiment contente de recevoir tout ça. Puis, beaucoup de dossiers très intéressants. Ça a été vraiment difficile de choisir. Mais finalement, on a choisi 12 artistes. Puis, là-dedans, il y en a 8 ou 9 qui sont étudiants à l'Université Laval. Ouais.
Puis, parce que je connais... Vous savez, mettons, je suis allée voir Evergun... Seulement parce que j'avais un ami, deux amis en fait, qui avaient participé. Mais sinon, je ne fréquente pas les musées. Et non. quand les gens déposent leur dossier, est-ce qu'il y a juste... Ils vous décrivent votre projet? Tu sais, comme quand on fait des demandes de bourse, le projet n'est pas encore rédigé. Est-ce que ils ont des photos? Qu'est-ce que vous recevez? Ça ressemble à quoi un dossier de...
En fait, un dossier, ça ressemble simplement à... Souvent, c'est des photos d'une œuvre qui est déjà réalisée. Ça peut être des œuvres que les artistes ont réalisées par le passé qui étaient en lien avec la thématique proposée, dans ce cas-ci, la mort. Ça pourrait être aussi une œuvre que les artistes ont créée pour la soumettre pour notre exposition. Mais on avait aussi dans nos dossiers quelques artistes qui ont déposé vraiment un projet, des ébauches d'œuvres, qui ont fait peut-être des petits croquis pour nous indiquer ce que les œuvres pourraient être parce que c'était des œuvres qui n'étaient pas encore réalisées. Puis c'est un dossier visuel avec un texte descriptif qui décrit l'œuvre, puis aussi qui établit un lien avec la thématique proposée.
Puis comment vous faites votre sélection quand vous avez tellement de médiums différents, d'artistes avec des expériences différentes, une capacité aussi peut-être à articuler, parce que tu sais, faire une œuvre, c'est une chose, en parler, c'est deux choses. Puis c'est aussi pour ça peut-être que vous avez des gens qui font des cartels, des choses comme ça pour donner des informations, mais comment vous faites pour sélectionner puis un peu donner la chance à tout le monde, là?
En fait, comment on a sélectionné? On était un petit comité d'exposition. On est 6 environ, des étudiants en histoire de l'art. Puis on s'est réunis, puis on a vraiment passé un dossier après l'autre. Puis c'est vrai que c'était pas évident parce que, vu que la thématique était tellement large, mm-hmm. les artistes pouvaient l'aborder à leur façon. Mais on a quand même vu un lien qui se tissait entre différentes pratiques. Puis c'était beaucoup l'idée de l'intimité, mm-hmm. puis du rapport personnel à cette thématique-là. Donc, à partir de ça, on a fait nos choix. Mm-hmm. Anne-Julie, je ne sais pas si tu as d'autres thématiques.
Oui, ben c'est sûr que, comme tu disais, en fait, c'est ça. C'est pas seulement la qualité des œuvres qui a été prise en compte pour faire le choix, c'est plutôt la façon dont on pouvait construire une narration qui allait, ou une constellation d'œuvres qui allait tisser des liens entre elles. Donc, il y a certaines œuvres, par exemple, qui allaient dans des avenues qui n'étaient pas du tout explorées par l'exposition. Donc, tout simplement, ces œuvres-là ont dû être mises à l'écart parce qu'on n'était pas capable de leur trouver de place dans l'exposition. Ça devenait des espèces d'isolats, puis c'était comme impossible de les mettre en relation. Donc, je dirais que d'une part, la qualité de l'œuvre, son respect du thème, puis aussi, malheureusement, c'est un peu du hasard, mais sa capacité à dialoguer avec les autres œuvres qui sont, elles, très fortes, puis qui répondent à la thématique.
Oui, parce que, comme vous l'avez dit, le sujet est large, mais on ne veut pas non plus avoir une exposition qui a l'air d'un patchwork. Parce que le patchwork ne va à personne. C'est mon statement.
Mais il y a aussi des enjeux d'espace, là, qu'on n'ait pas seulement des œuvres qui sont au mur, mais qu'il y ait des œuvres qui prennent l'espace de la salle, au centre de la salle, pour pas que ça soit trop vide. Fait qu'il y avait ça aussi à considérer. C'est quand même un travail complexe, mais vraiment fun à faire.
Oui.
Est-ce que c'est vous qui avez pensé la scéno, qui a monté l'expo?
Oui, on a pensé toute la disposition des œuvres. Puis c'est nous aussi qui avons fait le montage là, avec de l'aide des membres du comité. Mm-hmm. Mais c'est nous qui avons... on a fait pas mal tout le projet avec l'aide du comité, oui.
Puis j'imagine que, vous savez peut-être, est-ce que vous avez, des œuvres coup de cœur dans l'expo qui vous ont comme plus... Tu sais, j'ai l'impression des fois que l'art visuel, ce que l'on sait, c'est quelque chose de super intime. Là. Barthes parlait d'un certain punctum de la photo, mais une espèce de tu fais comme « Ah, crée, mais celle-là me touche plus que les autres pour telle raison, parce que vous, il y en a que c'est le cas. »
Oui, mais je pense que c'était assez intéressant parce que c'est vrai qu'on a des œuvres coup de cœur, mais seulement au vernissage, on a pu discuter avec, non seulement des membres du comité d'exposition, mais des étudiants d'histoire de l'art ou des visiteurs du grand public. Puis tout le monde arrivait un peu avec une œuvre différente pour me dire « Ah, celle-là, c'était ma préférée, elle est tellement forte. » Puis je voyais en fait toute la diversité des préférés. Là. Moi, je le sais très bien qu'il y a des œuvres dans l'exposition qui me touchent plus que d'autres. Mais ça n'empêche pas que, les autres œuvres peuvent venir rejoindre d'autres personnes aussi. Je pense qu'on a tous nos propres intérêts. Quelque part, les œuvres ont une capacité à parler, à venir chercher des gens différemment.
Mm-hmm. Puis est-ce que... Mais là, j'ai toujours pas de nom
d'œuvre. Je peux y aller.
Vas-y, toi.
J'y vais. Je pense qu'il y a mon coup de cœur. Puis Anne-Ju, je pense toi aussi, c'est celle-là, mais c'est l'œuvre de Léane Lefebvre. Mm-hmm. C'est comme une grande installation qui est au centre de la salle. Puis, en gros, qu'est-ce qu'elle a fait, l'artiste? C'est en se promenant dans le Vieux-Québec, là, je pense que c'est sur la rue Dorchester, elle a vu un bâtiment qui était en destruction, en démolition.
Mm-hmm. Ça vous a parlé?
Ça m'a parlé. Exactement, les ruines. Puis, elle est allée sur les lieux de la démolition pour ramasser des archives, des objets qu'elle a trouvé, des vestiges. Puis avec ça, elle a fait une installation qui est vraiment suspendue au plafond. Donc, ça fait vraiment comme une pluie d'objets. Puis c'est l'idée de la mort d'un bâtiment, la mort d'un lieu où il y a eu plusieurs souvenirs, où il s'est passé tellement de choses, mais là, il reste seulement quelques fragments. Visuellement, cette œuvre-là me parle beaucoup, mais aussi dans la démarche, dans l'idée derrière ça, d'imaginer l'artiste là, qui est vraiment dans le chantier de démolition. Puis elle a également enregistré les sons de la destruction. Donc, je pense que c'est mon coup de cœur, mais je les aime toutes à leur façon.
Mais non, mais c'est quelque chose de super intime. D'autant plus si vous avez choisi des œuvres qui parlaient un peu plus à l'intimité.
Exact.
Forcément, j'imagine qu'il y en a qui dialoguent plus avec vous que d'autres. Est-ce qu'il y a une façon d'aborder votre expo quand on arrive? Y a-t-il un ordre à suivre? Est-ce qu'on lit les cartels avant? Est-ce qu'on les lit après? Comment ça se passe? Qu'est-ce que vous nous conseillez comme formule?
Oui, il y a vraiment un parcours dans l'exposition que Myriam et moi, on a pensé. En fait, c'est très simple. C'est une exposition qui se lit théoriquement vraiment de gauche à droite. Là. Donc, on aimerait vraiment que les gens commencent par le début puis qu'ils regardent les œuvres un peu dans l'ordre dans lesquelles elles sont alignées. C'est un parcours narratif qui part d'approches de la mort peut-être un peu plus classiques à notre sens ou peut-être d'œuvres qui répondent un peu plus à nos attentes qu'on avait, donc des œuvres très mélancoliques qui vont nous parler d'absence, de perte, d'oubli en général. Ensuite, on progresse vers des œuvres qui ont peut-être plus une portée soit philosophique, soit spirituelle, soit sociologique. Donc, des œuvres qui essaient de faire sens de la mort de différentes manières. Donc, je dirais qu'on a un peu deux grands axes dans l'exposition que nous, on voyait. Des œuvres qui, au début, se proposent comme des tentatives d'apprendre à vivre avec le deuil. Mm-hmm. Puis des œuvres qui, après ça, tentent de comprendre ce phénomène qui est la mort.
Moi, on dirait que ça me donne envie de conclure là-dessus parce que je pense que je pourrais rien dire. Beaucoup personne après.
Alors, je vous invite certes à aller voir l'exposition Memento Mori, Regard sur la fin. Puis je parle bien de l'expo, là, pas Memento Mori, la chanson de Lucie Laurier. Ça, c'est pas très chisien comme créneau. C'est l'exposition qui a été mise en place et par les co-commissaires Myriam Dufour et Angélie Richard. Merci beaucoup pour votre passage en onde à vous deux.
Merci.
Et merci, Amy, d'avoir pensé à mettre en valeur cette expo. C'est au pavillon Alphonse Desjardins jusqu'à la fin du mois d'avril. Après la courte pause publicitaire, ce sera ta demande musicale spécial, Amy, qui aujourd'hui est autorisée parce que pour une fois, tu me fais une demande.
Fait, j'ai tendance à demander des chansons qui sont d'artistes morts, puis on considère que c'est pas émergent.
Voilà. Alors, à moins que ce soit un artiste émergent qui aurait connu une fin précoce, là, mais là, ça pourrait compter. Mais on n'est pas comme ça.
Et non, Valence et Ariane Roy sont encore en vie.
Peut-être pas le chien Charlie, mais ça, ça fait que ça marche dans le thème. C'est le titre Charlie, justement, cette collaboration que vous entendrez au retour de la pause. Je serai rejointe par Gabrielle Tremblay et Mémo Gauthier pour parler du festival Regard. Tout de suite après, Charlie, d'Ariane Roy et de Valence.
Sur une distance de 20 verres, la coupe Vanier au bout du pied.
Balle frappée solidement par White du côté gauche. Ouais. Circuit! Les Capitales qui reprennent les devants.
Pour ton sport local, écoute Cheese 94.3.
Ceci s'adresse à tous les amateurs de punk rock, de hardcore et de ska. Depuis 2004, Punk Détente vous diffuse le meilleur de la musique d'hier à aujourd'hui. Au menu, des entrevues avec nos bands de la scène locale, les nouvelles punk rock, la liste des concerts à venir, mais surtout, vos demandes spéciales. Le tout livré directement dans vos oreilles par une animatrice complètement passionnée. Punk Détente, les mardis de 18h30 à 20h sur les ondes de Chiz 94.3.
À cause des tentes sportives, on garde les yeux sur le ballon, sur la balle et ça apoque.
À conduite antisportive, on attaque les ondes profondes.
L'émission est pas finie tant que c'est pas fini.
On vous promet 60 minutes vraiment intenses, sauf pendant la pub.
Conduite antisportive, mardi et jeudi de 15h à 16h sur les ondes de Chiz 94.3.
Sans importance. Le jour où tu es parti, ce jour où tu es parti, j'ai cru à l'alibi, j'ai crié, où est Charlie? Nous dire pourquoi l'amour est un piège quand on donne trop de soi. Ses yeux brillaient pour une récompense. Aujourd'hui, les miens pleurent son absence. Maman ne m'avait pas
Vous entendiez Charlie sur les ondes de Chiz 94.3, une collaboration entre Ariane Roy et Valence. Valence, ben, comme tout le monde, voulait aussi collaborer avec Ariane Roy. C'est maintenant chose faite. On comprend pourquoi, d'ailleurs. Tout le monde a envie de collaborer avec Ariane Roy. Dans la dernière portion d'émission, c'est Alexandre Fecteau du collectif Nous sommes ici qui sera avec nous en entrevue pour souligner, d'ailleurs, les 15 ans de la compagnie de théâtre. Pour le moment, on est en mode court-métrage.
Toujours et toujours.
C'est notre retour sur Regard. Et c'est pour ça que je fais des petits yeux fancy, mais ça, vous les voyez pas.
Non.
À votre grand désarroi, auditeur, auditrice. Gabriel Tremblay, vous êtes toujours derrière le micro, bonjour.
Oui, allô.
Et Mémo Gauthier, qui vient de se joindre avec
nous. Salut,
tout.
Salut.
Nous étions ce beau trio au Festival Regard le week-end dernier. Ben, le week-end, plus que le week-end, là, c'était quand même du 22 au 26. Pour notre part, c'est à partir de jeudi qu'on est allé voir le cours à Chicoutimi, ainsi qu'à Jonquière. Mémo, premier Festival Regard pour ta part.
Oui, c'était mon premier Regard. C'était mon premier festival pratiquement qui n'était pas de la poésie ou de la musique. Puis honnêtement, tu sais, c'était vraiment le fun. Je suis vraiment content d'avoir vécu cette expérience-là. Puis c'est différent parce que on est assis tout le long.
Oh!
Wow! Ben, c'est un peu ce que tu as dit aussi en premier bloc, en premier segment Regard.
Tout à fait. Puis ce que je voulais voir avec vous, en fait, c'est que les gens qui n'ont pas pu se présenter à Regard ou qui y sont allés, mais qui, comme nous, n'ont pas pu assister à toutes
en fait,
les projections.
C'est impossible. Tu dois faire des choix.
Oui.
Déchirant.
Il faut faire des choix. Oui. Il y a quand même, en général, là, trois activités, dis-je, qui se tiennent en même temps, que ce soit une discussion ou deux projections de compétition ou hors sélection.
Ou tournoi de pétanque ou tir à...
cabane à sucre.
C'est ça. Il y a beaucoup de stock, là, à voir et à vivre,
oui, ouais. Voilà. Alors, que peuvent faire les auditeurs et les auditrices qui n'ont pas pu aller à Regard ou qui n'ont pas pu tout voir?
Sur le web, Regard en ligne commence!
Oui, donc, parce que dans les éditions précédentes, il y avait deux occasions à peu près de voir les films. Donc, il y avait certaines projections qui étaient en double, ce qui n'était pas le cas du tout cette année.
Non.
Alors, quand on ne pouvait pas voir un film, ben, il n'y avait pas de chance de se rattraper. Regard en ligne vient un peu pallier à ça, là, Gabriel.
Tout à fait. Donc, l'effet de rareté... ça m'ennuise un petit peu. Et au grand plaisir de tous les festivaliers, festivalières qui, effectivement, ont dû faire des choix. Et aussi pour ceux et celles qui ne pouvaient pas se déplacer à Chicoutimi le week-end dernier. Donc aussi, il y a un forfait parce que, je veux dire, tout un certain prix, hein, on doit débourser pour ça. Il y a tellement de travail derrière la programmation et derrière les films en soi. Je pense que le laissez-passer, c'est 40 $.
45.
C'est 45 $. Bon, tu vois, c'est pas
super. On est bien informé.
Ouais, Colin. Donc, pour quoi? C'est, je pense, deux semaines qu'on peut voir ça, là, si je me trompe pas. Donc, festivalregard.com en ligne.
Exactement. Donc, jusqu'au 9 avril.
9 avril. Ouais, c'est ça.
Effectivement, deux semaines. Il est bien informé.
Tout ça à peu près.
Il est à jour. Il est à peu près à jour.
On était là.
Puis là, on n'est plus là.
Ce fut bref, mais fort le fun.
Et pour les gens qui aimeraient revivre Regard, mais cette fois sur grand écran, parce que là, le Regard en ligne, c'est avec ce que vous avez à la maison, que vous pouvez visionner tout ça, ben, il y a quand même moyen de voir du court-métrage à Québec.
Oui, tout à fait. Gracieuseté du cinéma Beaumont, qu'on aime et qu'on adore.
Nouveau joueur dans le monde du cinéma à Québec.
Tout à fait. Donc, dans Saint-Roch, en plus, c'est vraiment trippant. Il y aura les lauréats, lauréates du Festival Regard qui seront diffusés le jeudi 6 avril,
en
c'est
plein,
ça? Jeudi prochain, donc pas cette semaine, l'autre. Vous allez pouvoir voir tous les films qui ont gagné des prix finalement à Regard, dont plusieurs qu'on a appréciés énormément.
Ouais.
C'est ça qui est hot, alors, très, très hot.
Les grands gagnants seront là au cinéma Beaumont. C'est dans le complexe Médure, je vous le dis, au circuit Beaumont,
ouais,
dis-je.
Circuit Beaumont, cinéma Beaumont, oui, oui, c'est ça. Mm-hmm. Voilà.
Que vous pourrez vous installer le jeudi 6 avril pour voir ces cours.
Parlons peut-être un peu de nos préférés, justement. Mm-hmm. Vraiment. Mm-hmm. Parce que là, vous pourrez nous lire ce mercredi, à partir de ce mercredi, pour voir vraiment notre compte-rendu officiel, nos coups de cœur, oui, en détail. Mais on va quand même vous donner
un
quelques aperçus.
Teaser, ouais. Un petit un teaser de teaser.
Un amuse-gueule.
Oui, oui. En bouche.
Les synonymes, regardons ça.
Des hors-d'œuvre.
Oh.
Des hors-d'œuvre.
Des canapés.
Cinématographiques. Oui, des canapés. C'est bon, ça.
J'appelle au cabotinage.
Oui, un peu. Hein. Des petites verrines cinématographiques.
Oh, plein ça.
Entre autres, là, un qui était diffusé dans deux compétitions, donc la compétition officielle, ouais, que j'ai vu, je crois, le 5-6. Samedi soir, j'étais tout seul, j'ai vu 18 films en ligne. C'était le fun de se séparer de vous autres, même si on vous apprécie normalement, mm-hmm, mm-hmm, on s'aime quand même. Mais il y a eu un court-métrage que vous avez pu voir en même temps, mm-hmm, ou presque, avec justement la réalisation, en plus, qui était là pour présenter le film. On parle ici de Avocado Pit, mm-hmm, qui était dans la compétition officielle, mais aussi dans Short and Queer, que vous avez vu.
Exactement. Et c'est un film qui n'est pas reparti sans en prix, d'ailleurs, de regard, avec une, voilà, sacrée belle mention spéciale, film brésilien, puis...
Portugais.
Ah, portugais.
Portugais, oui. Portugais, il a été tourné à Lisbonne,
oui,
en plus.
OK, voilà.
C'est juste que c'est en portugais, puis il parle portugais aussi au Brésil, mais...
Mais
je comprends le lien.
Oui, merci,
quand même,
mais
bon, quand c'est ça.
Puis que Mémo et moi, on a vu dans la même soirée, on savait pas que Gabriel allait, oui, le visionner en même temps, ça nous a plu de pouvoir en parler. Ce que le réalisateur nous disait avant la projection, car c'est l'une des choses qu'on apprécie à regard, entendre parler des films par ceux et celles qui les ont faits, c'est que il avait envie avec ce film-là de présenter une histoire avec un personnage principal trans qui ne meurt pas pendant le film. Puis maintenant que j'y pense, c'est vrai que dans les séries, les films ou les cours que j'ai vus où il y a des personnages trans, en général, ils subissent de la violence ou il y a des, voilà, enjeux de ce type-là. Alors que dans Un Avocado Pit, c'est pas ça du tout, c'est juste du beau.
Presque juste du beau.
Ben,
oui, franchement.
Il n'y a pas même de lait, là.
Très peu de lait, à peine. Un
à
soupçon,
peine.
C'est ça, vraiment.
Un soupçon de lait.
C'est une histoire presque d'amitié qui se développe, en fait, entre la femme qui est la personnage principal puis l'homme qui rencontre le temps, ouais, d'une nuit, tu sais, qui vont apprendre à se connaître, même s'ils viennent pas en tout du même milieu, qu'il y a peut-être des appréhensions du côté de l'homme qui la rencontre.
Oui, puis il y a comme une espèce de genre de fascination, mais qui rentre pas dans le fétichisme. Puis ça, c'est important aussi. Puis il y a comme un genre de... Tu sais, il y a comme une appréciation commune, mais tu vois que les deux parties, ils essaient de se comprendre, mm-hmm, un peu, puis mm-hmm, ils essaient de... Ouais. Tu sais, ils se picossent un petit peu, juste pour comme créer une sorte de relation, rentrer comme un peu plus profond là-dedans.
Vrai?
Mais il y a comme des petites affaires qui, ouais, les empêchent vraiment de le faire jusqu'au complet. Mais...
Ouais. Les deux essaient de rejoindre l'ovale du diagramme de Venn.
Ouais, oh, en plein ça.
Wow.
Au milieu.
Qu'est-ce, ouais, qu'ils ont quand même? Où peuvent-ils, ouais, se rejoindre dans leur humour? En tout cas, ça le fait. Puis
ouais, j'ai... dans la fascination et dans la curiosité l'un pour l'autre.
Mm-hmm. Puis dans une curiosité qui n'est pas justement un truc de fétiche ou qui n'est pas de l'amour non plus, qui n'est pas... Fait que tu sais, c'est pas une tension sexuelle qui est entre les deux, c'est vraiment un désir de connexion humaine, point.
Ouais, complètement anormal comme cadre cinématographique, puis c'est fascinant. Mm-hmm. On en veut plus,
oui,
de,
oui,
ce,
oui,
style de court-métrage, mais aussi de long-métrage, on, oui, s'entend là?
Mm-hmm. Oui.
Au grand écran aussi, s'il vous plaît.
Moi, j'en, merci, aurais pris plus long.
Oui, ben c'est ça, exact. Ça, ouais, ça fut un parmi tant d'autres, ouais, parce qu'on a trippé toute la fin de semaine. Autant, notre dernière projection qu'on a vue, c'était tourné à tout prix, donc des films à petit budget, sans subvention lucrative. Mm-hmm. Ça aussi, c'était vraiment trippant. Notre dernière soirée à Jonquière, et la seule, en fait, qu'on a eue à Jonquière. Ça, c'était hot aussi, les films d'animation qu'on a tous vus ensemble, sauf toi, Maxou, mais mm-hmm, ça aussi, on a eu des coups de cœur interstellaires,
oui,
des incontournables qu'on vous suggère. On va vous en parler mercredi, donc...
Manquez pas ça.
Schiste.ca.
Oui.
Article.
T'es prêt.
Voilà, c'est ça.
Le site web sera complètement submergé.
La page va sûrement planter. Trop, mm-hmm, de trafic.
Mm. Voilà.
On le souhaite.
Puis, ce qui était notable aussi cette année, c'est la sélection de films autochtones. C'est une première collaboration pour le Festival Regard avec vraiment la communauté autochtone. Puis, je pense que c'est une soirée qui a été super appréciée. Ouais. J'entendais, bon, là, à Chicoutimi, il faut dire que c'est pas mal des gens du milieu qu'on croisait dans les cafés ou les, mm-hmm, restos où on allait. Donc, j'entendais justement la gang mener une entrevue avec un autre média à propos de ça, puis c'est une collaboration qui avait été fascinante puis qui va se poursuivre à travers les années. La sélection 100% région aussi plaît beaucoup. Il y a pas mal de films quand même du Saguenay ou de la Montérégie qui se ramassent là. Bref, c'est des films tournés en région. Ça plaît au Petit Bleuet, en moi. C'est vraiment de sacrées belles sélections. Le Short and Queer fait partie de mes coups de cœur.
Moi aussi également. Puis la suite de Short and Queer aussi, là, Les Stupéfiants, ça, c'était excellent ça aussi. Là. C'était pas nécessairement toujours du contenu qui était facile à voir. Là. Ça parlait de beaucoup de réalité de la consommation, des gens qui s'injectent aussi des drogues. C'était vraiment des portraits qui étaient crus quand même. C'était très cru comme, comme visionnement, en fait. Puis, Non, je pense que c'est important aussi d'en parler puis de montrer justement cette réalité-là sans rentrer aussi dans le dans un discours moralisateur ou comme la drogue c'est mal ou tu sais genre vraiment juste faire un portrait objectif de c'est ça la réalité, c'est ça que ces gens-là vivent puis c'est là.
T'sais. Une autre belle réussite de cette sélection. Et puis finalement, pour nos tout derniers coups de cœur, ce sera dans l'article, comme Gabriel l'a si bien vendu dans cette entrevue. Ça sera pas mon dernier festival Regard, que je le vive en ligne ou que je le vive sur place. Je développe un intérêt pour le film court.
Définitivement, moi aussi. Là, j'ai déjà hâte à l'année prochaine.
Il va jusque-là.
Jusque-là.
364 dodo, on lâche pas.
J'y compte.
Merci beaucoup, Gabriel Tremblay et Mémo Gauthier, pour votre retour. On vous lit sur lechiz.ca dès mercredi. Et en musique, c'est comme un sablier du groupe De Flore, qui est au Francouverte cette semaine. C'est la dernière semaine des Francouvertes. Si vous n'êtes pas à Montréal et que vous ne pouvez pas vous déplacer au Lion d'Or, achetez un billet. Écoutez ça en ligne. Ce concours-là prend fin cette semaine. Il reste 3 soirs. Le dernier soir, ce sera Emmanuel Kerry, De Flore. Et par hasard, j'ai assez donné d'informations. Voici De Flore, de Comme un sablier, sur les ondes de Chiz 94.3.
De l'âge coule sur ma peau, un paysage ambigu naît devant moi comme un simple coup de pinceau. Ce n'est pas que je ne suis plus, mais d'un seul pas je t'ai perdu. Autour de moi le temps déchu tapisse l'étoile à perte de vue, et surtout quand tu es là-bas et que moi je reste ici, comment faire pour être ensemble jusqu'à l'infini. Souvenir de ton essence, mes caresses là me percent le dos. J'observe jaillir dans le miroir des rêves sans matelot. Plus je regarde dans les phares, ce sont comme tes yeux qui brillent trop. Et surtout quand je suis là-bas et que toi tu restes ici, comment faire pour être ensemble jusqu'à l'infini? C'est trop ambigu. Les mille et une copies de moi parallèles, quelle danse, je le sais. Les effluves de l'âge coulent sur ma peau, comme des fleurs qui ne sèchent plus, comme un navire sans sa voile, à l'aube d'une quête sans repos. Mais surtout quand tu es là-bas, et que moi je reste ici, comment faire pour être ensemble jusqu'à l'infini?
comme un sablier, un titre de De Flore à Chérie, j'arrive. Groupe qui participe aux Francouvertes cette année. C'est la dernière semaine des présélections du concours. Jeanne Côté domine toujours le palmarès pour le moment. Si c'est pas possible pour vous, auditeurs, auditrices, d'assister au concours en Montréal, au Lion d'Or, ben, je vous invite à prendre un billet pour les présentations en ligne. Depuis la pandémie, c'est possible d'assister aux Francouvertes et de voter en écoutant le tout en ligne. Cette semaine, Glum, Bru et Peanut Butter Sunday ouvrent le bal en ce lundi. D'ailleurs, c'est le groupe acadien que je vais vous faire entendre avant de parler littérature avec Émilie Lapointe. Le titre « C'est la vie » est tiré du EP « Quoi ça y a pour le souper » du groupe acadien. Voici Peanut Butter Sunday.
C'est la vie. Tard les soirs, je peux pas être abandonné. Moi dehors, et point grand-heure, y'a plus. Pis va fucking trompe dehors. Là, c'est la vie. Un sac à poule, leftover spaghetti. Mon phone est mort, un tour pour sale.
C'est la vie, un titre de Peanut Butter Sunday sur les ondes de Chiz 94.3. Vous êtes toujours à l'écoute de Chérie, j'arrive, et ça jusqu'à 17h30. Oui, oui, je considère que vous lâcherez pas les ondes d'ici 5h30, auditeurs et auditrices. Ma co-animatrice du jour, Rémi Lapointe, est toujours avec moi en studio. Rebonjour, Rémi.
Rebonjour.
Avec toi, on parle parfois littérature et film. C'est d'ailleurs en fin d'émission de film dont on parlera ensemble de ce que tu as visionné dernièrement. Et j'avais envie de te faire deux propositions de lecture, Rémi.
Je suis tout oui.
Excellent. Je voulais que tu acceptes. On n'était pas sûr. Mais si ça te convient, je me lance. Une proposition poétique et un essai. Donc, c'est ce que je lis le plus fréquemment. Il n'y a pas de surprise pour les gens qui m'entendent parfois parler de livres à la radio. Il y a d'abord « À quoi jouons-nous? », un livre de Rachel Lamoureux, paru en octobre dernier. Il faut dire que c'est passé un peu sous mon radar. C'est Élisane, à la publication de cet exécrable corps, qui a rappelé, qui a souligné l'existence de ce livre-là, d'une autrice qu'elle connaît. Donc, je suis allée voir ce que c'est. C'est aux éditions du Cartanier. Et « À quoi jouons-nous? » raconte l'histoire de la narratrice, donc qui n'est pas nécessairement Rachel Lamoureux. Faisons toujours bien cette distinction entre l'autrice Évidemment. Et la narratrice. C'est important. Qui a ce que j'ai interprété comme une relation toxique avec un auteur, quelqu'un du moins qui est en position d'autorité. Est-ce qu'elle parle d'un enseignant, d'un auteur connu, d'un directeur? Ça, c'est pas clair, cette position-là, mais on sent qu'il y a une relation qui est malhonnête et qui est inégale entre la narratrice et la personne avec qui elle entretient un lien, somme toute amoureux, mais somme toute violent aussi. Donc, c'est une histoire de désir, d'envie d'y croire, mais en même temps de souffrance. Et d'où le titre de ce livre-là, « À quoi jouons-nous? » Puis, ça se dévore, OK? Les recueils poétiques, souvent, sont un peu plus courts. Celui-là fait quand même 158 pages. Mm-hmm. Donc, plus substantiel là, pour les gens qui disent que ça passe souvent trop vite, un recueil de poésie avec « À quoi jouons-nous? » Je pense qu'il y aura de quoi passer une belle soirée. Il fait mal, là, parfois. Là. Donc, il y a des textes qui vont être plutôt... c'est de la prose poétique tout le long, mm-hmm. mais il y a quand même des portions qui ressemblent plus à des fragments oui. qu'à des poèmes. Donc, c'est un beau mélange de genres aussi entre ces deux-là. J'aime ça, moi, les paragraphes pas de points. Ça, il y a un rythme quand même, un essoufflement qui se crée à la lecture. Puis c'est correct, là, le texte nous fait ce qui...
Oui, je pense que c'est un procédé... Et oui, je vais encore parler de Nelly Arcand.
Ah oui, ben vas-y pas.
Mais c'est un procédé que Nelly Arcand utilisait beaucoup dans ses œuvres, entre autres dans Putain plus que dans les autres, là, les longs paragraphes dans lesquels tu t'essouffles puis que tu... Oui, c'est comme un autre travail sur la forme d'imposer un rythme de lecture. Là.
Mm-hmm. Donc Rachel Lamoureux le fait bien là-dedans. C'est « À quoi jouons-nous? », livre qui était passé sous mon radar, mais qui... Y est désormais, c'est aux éditions du Cartanier. Et une sortie qui est un peu plus récente, une histoire des produits menstruels, c'est aux éditions Divergence, maison d'édition que j'apprécie vraiment beaucoup, un livre de Jeanne Guyen. Et Amy, les apprentissages que j'ai fait dans cet essai-là, c'est capoté. C'est super bien vulgarisé. Donc, pas besoin d'avoir une attention de lecture super soutenue mm-hmm. ou c'est accessible. Puis, crime, je pense que pour une fois qu'on démystifie l'histoire des produits menstruels, c'était aussi bien que ce soit vulgarisé comme ouvrage. Ça traite notamment des serviettes jetables, des tampons jetables et d'une invention un peu plus récente, les applications de suivi menstruel. Peut-être que certaines mm-hmm. personnes qui nous écoutent en utilisent. Donc, il y a tout un chapitre, c'est divisé en trois sections, toute une section qui traite de ces applications-là. Pour la toute première portion là, sur les serviettes menstruelles, il y a énormément d'apprentissage à faire. D'abord, c'est un peu à cause de la guerre qu'on a accès à des serviettes jetables. Parce qu'on ne sera pas surpris d'apprendre qu'avant, on pouvait les coudre nous-mêmes, les serviettes menstruelles, puis les nettoyer nous-mêmes et les repriser à la main.
Mais c'est drôle surtout parce qu'il y a quand même une espèce de retour à ça dans une certaine mesure. Mm-hmm. Il y en a nettoyables, il y a aussi les culottes avec comme des choses que des parties t'insères puis tu nettoies là. Comme un retour à la terre.
Oui, ah voilà. Petit retour, c'est vrai. Ben peut-être pas à la terre là, mais
bon, quand même.
Enfin. Puis ce que j'ai été vraiment surprise d'apprendre, c'est que bon, ben, pendant la guerre, il y a certes vraiment un très très grand nombre de gaz qui ont été produits. ben là, tu sais, ZE là, vous voyez pour panser les blessures. Puis quand la guerre s'est terminée en 18, il y a tout à coup ben plein de compagnies, d'hôpitaux, les armées qui ont annulé des commandes, ce qui fait que il y avait à peu près 600 tonnes de commandes de trop dans les usines. Et là, il y a la compagnie Kimberly-Clark qui s'est dit, qu'est-ce qu'on fait avec 600 tonnes de coton? Ils se sont dit, il faut trouver une façon de les vendre aux civils, ces tonnes de coton. Ils sont mis en coude 40 épaisseurs ensemble et à créer les toutes premières serviettes menstruelles jetables. Ça a été un peu compliqué à commercialiser. Aucun grand magasin ne voulait les afficher dans les vitrines. Fallait pas qu'il y ait d'image sur l'emballage. Fallait pas qu'on dise non plus à quoi ça sert. La compagnie Kimberly-Clark a même pas voulu commercialiser ça sous son nom, de peur de ternir la réputation de la compagnie si c'était associé aux serviettes menstruelles jetables. Alors, ils ont créé une autre
compagnie,
filiale, une autre branche pour commercialiser les serviettes. Ça a pas pogné tout de suite, mais c'est vraiment vers les années 1920. Donc 2 ans après la fin de la guerre que là il a commencé à avoir un certain un peu de vente là, par rapport aux serviettes. On les vendait surtout au départ pour le voyage ou pour l'accouchement, donc c'était un produit surtout destiné aux femmes bourgeoises, donc il y avait les moyens de voyager aussi, et on recommandait de les brûler après utilisation.
Évidemment.
Fait que tu gardais pas ça, tu jetais pas ça, même si c'était brandy aussi qui avait un petit sac de transport après. Parce que tu peux pas jeter ça n'importe où, fallait que tu brûles chez vous, tu sais là. Ben important. On apprend tout ça et beaucoup plus dans Une histoire des produits menstruels. C'est un livre que je recommande à tous et à toutes, c'est fascinant. Puis tout ce dont je viens vous parler là, on l'apprend avant la page 27. Imaginez là.
Est-ce que tu étais juste rendue à la page 27 ou...
Non, non. Okay. Je suis rendue dans le chapitre sur les tampons, mais c'est ça regorge d'informations. Puis depuis que je sais tout ça, j'arrête pas d'en parler à tout le monde. Je trouve ça fascinant.
Puis les gens le voient pas à la maison, mais l'ouvrage est quand même volumineux. Mm-hmm. Puis moi, ça m'impressionne. Là, tout ce qu'il y a un travail de recherche, d'archives, et après ça, de synthèse et de vulgarisation, là, mm-hmm. c'est une richesse que... Je trouve que c'est un don là, de la personne parce mmh. qu'il y a tellement un énorme travail en amont, là, comme une espèce d'iceberg. Là. Nous, on a comme le meilleur de tout ce qu'elle a pu chercher. Puis je trouve que c'est mmh. un travail de fou. Je suis curieuse parce que je sais pas pourquoi j'ai su ça. Je sais pas à quel point c'est vrai. Tu t'es rendu dans le chapitre des tampons. Est-ce que c'est vrai qu'à Sparte, OK, avoir tes yeux grands, je pense que non.
Peut-être pas rendu assez loin dans le chapitre.
Mais j'avais lu quelque part... mais ça se peut que ce soit sur TikTok. Fait que, tu sais, mollo pour la référence, mm-hmm. mais qu'il y avait comme un ancêtre du tampon, en fait, qui était fait à partir de fils de soie ou de coton, mm-hmm. là, je sais pas trop, là. Je sais pas non plus la différence entre le coton puis la soie à part le prix. Mm-hmm. Mais oui, qui était en fait comme un bâtonnet enroulé de ça. Mais c'est peut-être faux parce que moi, je pense au choc sceptique, là, mettons. Là.
Ouais.
Fait qu'après ça, peut-être qu'on avait la flore plus solide à l'époque.
À voir.
Bon, mais on s'en reparle.
C'est peut-être une légende urbaine sur TikTok.
C'est peut-être une légende urbaine.
Mais pour l'instant, ça n'est pas confirmé dans cet essai-là. Une histoire des produits menstruels de Jeanne Guyen aux éditions Divergence. C'est vraiment instructif. C'est super bien fait et surtout, c'est vraiment bien vulgarisé. Alors, je trouve ça accessible, grand public. C'est important que ce le soit ainsi. Tout de suite après la pause publicitaire, c'est avec Alexandre Fecteau qu'on s'entretient. Alexandre a cofondé la compagnie de théâtre Nous sommes ici, qui fête ses 15 ans. C'est 9 productions originales réalisées par Nous sommes ici. La pièce N'essuie jamais de larmes sans gants qui joue au Trident en ce moment. Eh bien, c'est Nous sommes ici qui est derrière. Ce qui s'en vient aussi à l'aborder dans les prochains jours, tout inclus, c'est la même gang qui en est responsable. Alors, on en parle avec Alexandre dans les prochaines minutes. À Chérie, j'arrive.
On the side, on reste positif, on garde le focus sur le prize.
Écoute locale avec Chiz 94.3.
Cinéma, showbiz, les nouvelles internationales et surtout la bonne musique tropicale. Samedi, dimanche, 13h, Radio Futura 94.3 FM, Québec, Canada. Partout au monde, www.cheese.ca. Digan lo que digan, somos la numéro uno.
C'est le printemps à l'Impérial Belle. Le 13 avril, laisse-toi entraîner par l'univers festif et désinvolte du petit Béliveau. Le 14 avril, c'est Lou-Adriane Castille qui va t'impressionner avec sa présence scénique envoûtante. Viens voir petit Béliveau et Lou-Adriane Castille les 13 et 14 avril à l'Impérial Belle. Billets en vente au impérialbelle.com.
De retour à Chérie, j'arrive sur les ondes de Schiste 94.3. Je suis toujours accompagnée de ma co-animatrice du jour, Émilie Lapointe. Bonjour à toi encore, Émilie.
Rebonjour.
Et nous venons tout juste d'être rejointes, mais là, pas en studio, mais bien à l'autre bout du fil, par Alexandre Fecteau. Je vous parlais avant la pause de la compagnie de théâtre Nous sommes ici. Mais ça a été cofondé notamment par Alexandre Fecteau. Bienvenue en ondes, Alexandre.
Oui, bonjour.
Comment ça va?
Très, très bien.
Alexandre, on a plusieurs choses à aborder ensemble, notamment la pièce qui va prendre l'affiche à l'aborder dans les prochains jours. Mais surtout, on voulait souhaiter bonne fête à Nous sommes ici, 15 ans déjà.
Ben oui, c'est fou, on voit pas le temps passer, mais oui, ça fait déjà 15 ans qu'on a fait notre premier chantier dans le cadre du Carrefour international de théâtre. Là, c'était en 2008.
Mm-hmm. Qu'est-ce qui, à ton avis, qu'est-ce qui fait que 15 ans plus tard, ça a fonctionné? Est-ce que c'est ce que tu imaginais là, en fondant Nous sommes ici en 2008?
Ben écoute, tu sais, je ne pouvais pas imaginer 15 ans plus tard.
Soyons sincères.
Je pense que je rêvais d'avoir une compagnie puis d'être capable de continuer à créer, tu sais, d'être bien établi à Québec, tu sais, puis d'être capable quand même d'imaginer des projets puis de les mener à terme. Puis ben à quelque part dans ce sens-là je réalise ce rêve-là là. Mais en même temps j'aurais pas pu imaginer comment ça s'est passé depuis. Il y a eu plein d'accidents de parcours heureux comme moins heureux forcément, mais qui ont tout construit qui on est. Puis c'est juste comme un peu hallucinant là de regarder ça puis de faire ah ouais, s'en est passé des choses là, depuis 2008.
L'une des particularités enfin qui me plaît beaucoup de Nous sommes ici, c'est la place que vous faites aux spectateurs, mais c'est plus qu'une place, c'est pratiquement un rôle dans la plupart de vos créations originales, Alexandre.
Ouais, c'est ça. Ben tu sais, c'était vraiment très 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 marqué dans les débuts, tu sais. Avec l'étape qui est un documentaire sur Feu à l'Ostop, là, pas tout le monde qui l'a connu là, c'était avant Amigo Express, en tout cas le covoiturage, tu sais, les spectateurs étaient comme prenaient le rôle d'un automobiliste qui embarque dans une voiture. Fait que toute la mise en scène était faite autour de ça. Après ça, quand on a fait Changing Room, ben là, ça nous amenait dans le cabaret de drag queen, mais pas juste dans le cabaret, mais dans la loge aussi. Puis encore là, il y avait de la participation du public, tu sais, il y avait déjà évidemment l'interaction du cabaret qu'on connaît, mais il y avait aussi
Hôtel Dieu, la deuxième partie était majoritairement constituée de spectateurs qui allaient prendre place sur scène, être filmés.
Oui, c'est ça, parce que c'était beaucoup sur le fait de s'approprier, de comme s'approcher d'une certaine souffrance puis de la ressentir de plus proche. Fait que nous, on était dans les rituels dans Hôtel Dieu dans la deuxième partie. Fait que oui, on voulait faire participer des gens.
Mm-hmm. Puis outre le spectateur, vous allez beaucoup à la rencontre de l'autre. Puis de l'autre au sens large, c'est ce que vous avez fait avec Singulière en allant rencontrer des femmes célibataires qui cherchent l'amour ou qui veulent faire leur vie toute seule, mais vous les avez interviewées. Il y a beaucoup quand même de cet aspect-là d'aller à la rencontre de l'autre, mieux comprendre sa réalité. Est-ce que c'est quelque chose qui était là dès le début pour toi, Alexandre?
Ben je pense que oui. Puis je pense que ça doit me ressembler à quelque part, là, tu sais, c'est une sorte de curiosité là, puis de fascination aussi, tu sais, de fascination pour ce qu'on pourrait appeler les gens ordinaires, mais qui sont rarement finalement très ordinaires, tu sais, je trouve que il y a plein de gens, quand on prend le temps de s'y intéresser, qui peuvent devenir assez fascinants. Fait que tu sais, Singulière, je pense que c'est un bon exemple de ça. On a cherché des femmes, tu sais, qui vivaient pas le couple, mais après ça, qui avaient tellement de choses à raconter, tu sais, qui au lieu de raconter un vide, tu sais, racontaient finalement, tu sais, comme toute une autre façon de remplir sa vie. Fait que elles étaient très inspirantes, là, tu sais, ce qui veut pas dire qu'elles avaient pas aucune tristesse, là, dans leur vie, c'est ça aussi, c'était de faire comme, tu sais, elles font toutes sortes de jobs, là, tu sais, c'est pas des gens qui se retrouveraient à Tout le monde en parle, mais en même temps, quand on prend le temps de les écouter, ben là, elles sont vraiment intéressantes.
Tout à fait. Puis des gens qu'on prend pas le temps d'écouter, je pense que c'est les personnes âgées. Toi, en fait, nous, avec Nous sommes ici, avec la compagnie de théâtre, vous avez eu envie de donner parole aux personnes âgées avec tout inclus.
Ben oui, c'est ça. Ben là, faut dire que c'est pas mon Là, l'initiative n'est pas venue de nous. Hein, mm-hmm. C'est un projet qui est porté par l'auteur et comédien François Grisé. Mais dès que j'ai entendu parler du projet, j'ai eu le goût de m'associer à ça puis d'associer mm-hmm. la compagnie parce que je voulais que ça soit présenté à Québec. Puis j'avais, puis je me disais, ça, c'est le genre de projet qui va, c'est qui va être un engagement personnel pour un bon moment. Puis dans, effectivement, parce que ça fait déjà plus de 5 ans là, que je suis associé à ce projet-là. Mm-hmm. Fait que tu sais, j'ai fait, mais là, tant qu'à me donner à ce point-là, je vais embarquer la compagnie là-dedans. Fait que oui, on, tu sais, aller à la rencontre des personnes âgées, puis tu sais, donc d'aller à l'écoute de c'est quoi vieillir, c'est quoi être malade, c'est quoi sentir qu'on va mourir, c'est quoi vivre dans une résidence qui nous fait sentir peut-être un peu à l'écart de la société. Tout ça, ça me paraissait tellement pertinent. Tu sais, je le voyais dans le prolongement de Hôtel Dieu. Là, tu sais, on s'est intéressé à la souffrance, au deuil. Mm-hmm. Puis là, j'étais là, ben, il y a ça là-dedans aussi, dans Tout inclus. Mais il l'a comme d'une, tu sais, alors qu'on s'intéressait dans Hôtel Dieu à des deuils, ce que j'appelais les deuils impossibles, tu sais, parce qu'ils sont particulièrement difficile, là. Mm-hmm. Mais là, c'est avec les personnes âgées, la vieillesse, ben là, ça, c'est le parcours auquel on est tous appelés, qu'on est tous appelés à vivre, mais qu'on s'affaire presque tous à tenir le plus loin possible de notre conscience, là. Tu sais, c'est là une grosse partie de, ben, j'allais dire du problème, mais tu sais, dans le sens que ce qui rend ça difficile, entre autres, c'est qu'on s'en occupe pas parce qu'on veut pas y penser.
Voilà.
Puis là, après ça, en tout cas, quand vous verrez le spectacle, vous comprendrez tout ce que ça amène. Mais c'est le tabou qu'on a sur la vieillesse nous nuit d'une façon, tu sais, nous nuit dans les options qui s'offrent à nous, puis dans notre lucidité, puis dans notre façon d'être capable d'être actif, puis de faire des choix mm-hmm. pour nous-mêmes parce que on le prévoit pas, parce qu'on le voit pas venir.
Oui, il faut y penser, puis il faut, comme l'aurait dit Antoine Bédard, en fait, avec son plus récent essai, mettre la mort à l'agenda. J'en ai parlé récemment mm-hmm. à l'émission. Je pense que Tout inclus va bien le faire dès Absolument. Le 29 mars à l'aborder. Il faut y aller rapidement, là, parce que c'est 2 semaines, c'est jusqu'au 8 avril.
Oui.
Il faut aussi
le mois d'avril, c'est demain, là.
Fait c'est que, ça.
Oui, c'est ça. Ça commence très, très vite. Ça va finir très, très vite. Voilà. Il faut l'attraper maintenant, mm-hmm. là.
Et puis, il faut aussi aller très, très vite au Trident. Il ne reste que quelques représentations pour...
Et quelques billets,
c'est
là.
Ça.
À peine. Ben là, c'est ça. Là, ça, c'est plus compliqué parce que mm-hmm. toutes les représentations de soir sont complètes.
Mm-hmm.
Il ne reste que des billets pour la matinée scolaire du jeudi cette semaine ouais. à 10h. Fait que là, si vous pouvez prendre congé, vous aurez la chance d'attraper le spectacle parce que sinon, ben, c'est déjà c'est trop plein. Tard.
Puis, c'est pas surprenant, Alexandre, je te l'apprends, mais tu es responsable d'une de mes plus grandes crises de larmes récemment. J'ai beaucoup apprécié mon expérience au Trident. Je m'étais préparée en allant à la Maison de la littérature, voir justement la table ronde sur la place des tabous en littérature, puis dans les arts en mm-hmm. général. Quel travail ça a été pour toi là, de travailler sur N'essuie jamais de larmes sanguines?
Écoute, c'est un projet de grande envergure là, que je porte depuis presque 5 ans. Là, c'est-à-dire que quand j'ai lu le roman, j'ai eu un choc, là, tu sais, vraiment très fort, personnel, artistique, tu sais. Puis j'ai eu l'impression de rencontrer une matière littéraire, artistique qui répondait à un besoin que je ressentais depuis tellement longtemps de parler de l'épidémie de VIH/SIDA parce mm-hmm. que je sens qu'en tant que gay, j'ai comme hérité de peut-être d'une colère là, tu sais, de comme de en tout cas d'une injustice là, mm-hmm. tu sais, que je n'ai pas vécu moi-même, mais que les hommes plus âgés que moi ont vécu, puis les hommes, puis pas juste les hommes là, tu sais, parce qu'ils étaient entourés de femmes, et tu sais, on le sait comment les hommes gays ont été particulièrement affectés par ça. Fait que quand j'ai lu ce livre-là, j'ai fait ah c'est ça qu'il faut, tu sais, ben, pas dans le genre ça va être facile, mais j'ai fait c'est tellement porteur, c'est ça que j'ai envie de dire, tu sais. Fait que ça m'a beaucoup occupé parce que c'est ça, c'est un roman de 800 pages. Puis nous, on aboutit avec un spectacle de 3 heures et quelques, là, mais tu sais, j'ai travaillé avec l'autrice Véronique Côté parce que il fallait quelqu'un qui avait une vraie plume théâtrale pour arriver à amener ça à être de la parole puis du vivant sur scène.
Vrai. Et puis, autre vivant auquel on va avoir droit, notamment grâce à toi, Alexandre Fecteau, c'est Où tu vas quand tu dors en marchant. La programmation du Carrefour international de théâtre devrait être dévoilée bientôt. Peux-tu
oui,
nous...
mercredi matin.
C'est ça, là.
Oui, cette semaine.
Donc, là, tu peux pas trop nous teaser, rien nous dire, mais que peux-tu nous dire, Alexandre?
Non, mais je peux vous dire. En fait, je peux rien vous. Je ne connais aucun scoop parce que je suis pas dans la programmation des spectacles en salle. Mm-hmm. Mais Où tu vas, c'est pas un secret. Où tu vas revient. C'est la même édition que l'an dernier. Donc, on est en année de reprise. On retourne au Parc des Moulins, l'ancien jardin zoologique, donc à Charlebourg. Fait que, si vous l'avez pas vu l'an dernier, il faut le voir cette année parce que après ça, ce sera terminé pour cette édition-là.
Dernière chance pour Où tu vas quand tu dors en marchant,
oui.
Dont tu assures
pour
la
cette
direction.
Cette édition-là, à tout le moins.
Uh-huh. Par ailleurs, là, quand même bien de mentionner que le Carrefour International Théâtre cette année offre
La tarification.
Une tarification adaptée là, selon les revenus, selon qui, j'imagine, se base sur la bonne volonté des gens, la bonne foi, qui est quand même. Parce qu'on parle très, très souvent d'accessibilité des arts, mais entre autres du théâtre qui est comme considéré comme étant probablement l'art le moins accessible tant par le médium que par le prix. Puis c'est quand même une espèce
c'est
de...
C'est un vrai geste, hein? C'est oui, vraiment une main tendue, tu sais, pour enlever la barrière du prix, là, fait que, tu sais... Si c'est ça votre frein habituellement, je dis allez-y, courez, profitez-en, c'est là pour ça. T'sais. C'est ça qu'ils veulent, l'organisation, c'est que les gens qui ne se permettaient pas d'y aller parce qu'ils n'avaient pas les moyens, ben, que ce ne soit pas le frein, puis que s'ils aiment le théâtre, ben, qu'ils en profitent.
Voilà. Puis Alexandre, en terminant, je veux revenir à Nous sommes ici, bien sûr, qui est bien ancré à Québec. Là, certes, il y a eu des représentations qui vous ont emmené jusqu'au Mexique, mais je pense que c'est important pour toi de rester bien ancré à Québec. As-tu eu envie, à un moment donné, de dire non, ma compagnie, elle va être à Montréal, elle sera ailleurs? Ben, qu'est-ce qui a fait que c'était important pour toi de rester ici, capitale nationale?
Ben, c'est parce qu'on est une compagnie. Tu sais, il y a d'autres artistes dans la compagnie. Là, il y a la scénographe Ariane Sauvé, il y a la comédienne Frédéric Bradette, le concepteur sonore François Leclerc. On est tous ici. Notre force, ça vient aussi de comment on se connaît, puis aussi de tous les autres concepteurs qui gravitent autour de nous. On travaille pas toujours avec les mêmes personnes, mais Québec, c'est une ville de théâtre, dans le sens où c'est pas une ville de télé ou une ville de cinéma, en tout cas vraiment pas autant que c'est une ville de théâtre. Puis il y a beaucoup d'artisans autour de nous. Puis tout, tu sais, ce que je veux dire, c'est que notre écosystème, notre milieu, ça fait notre force aussi. Tu sais, je pourrais travailler avec d'autres gens à Montréal, mais ce serait pas la même chose parce que on n'aurait pas les mêmes connivences, on n'aurait pas la même complicité. Fait que, tu sais, c'est très précieux, ça, de Québec. Cet écosystème-là qui est très, très dynamique. Les gens s'échangent, les gens voyagent d'un projet à l'autre, mais on se croise souvent. Fait que, non, vraiment, ça pas... Tu sais, il y a des choix de vie là-dedans, mais il y a aussi vraiment un choix de milieu de création.
Voilà, un choix de collaborateur et de collaboratrice, quoi.
Ouais, c'est ça.
Alexandre Fecteau, merci beaucoup d'être venu à Chérie, j'arrive. On souligne les 15 ans de la compagnie de théâtre Nous sommes ici et j'invite les gens à aller à l'aborder pour tout inclus dès le 29 mars. Merci encore, Alexandre.
Hey, merci beaucoup.
Bye.
Bye.
En musique, Kate Kuna nous offrait ce que j'ose appeler un album double vendredi dernier parce que c'est 20 chansons. Bon, presque 20 chansons, parce qu'il faut dire qu'il y a quand même certains interstices, disons-le, à travers tout ça. Mais bref, 20 pièces à se mettre dans les oreilles. C'est sous le titre Métastase que Kate Kuna nous offre ce 5e album solo en carrière. Bien entendu, l'artiste a participé à beaucoup plus d'opus que ça. C'est le titre C'est un bum que je vous offre à Chérie, j'arrive.
L'air d'un bandit, il fume dans la ruelle. Il joue de la batterie, il casse des bouteilles. C'est un bum. C'est un bum. Il écoute Ozzy, il marche dans les poubelles. Il veut pas d'amis, il veut pas qu'on l'aime. C'est un bum. C'est un bum. C'est un bum. C'est un bum. On sait pas.
je pense à lui, sa face de coquerelle. Je me dis qu'aujourd'hui, il est encore pareil, c'est un bum. C'est un bum. C'est un bum. C'est un bum.
C'est un bum, la piste 2 de l'album Métastase de Kate Kuna. À Chérie, j'arrive, on est avec vous jusqu'à 17h30. Je dis on, car Amy Lapointe est toujours avec moi en studio. Amy, nous allons parler cinéma, parce que comme tu le disais en début d'émission, tu regardes plus que tu lis. La lectrice, c'est moi.
Je veux comme revenir là-dessus, là. Je suis contente que tu me relances la piste. Je lis. Mais tu sais, c'est je lis... beaucoup pour l'école, j'ai recommencé à lire pour le, tu sais, je suis en train de finir pour l'école, la recherche du temps perdu, fait qu'on peut pas dire que je lis, là, mais là je suis un peu en retard, là, je vais pas te mentir, je suis un peu un tome et demi en retard.
Les étudiants et les étudiantes à l'écoute compatissent avec toi.
C'est parce que c'est long, hein, son histoire, ouais. Marcel Proust quand même. Mm-hmm. Puis sinon, mais là je viens de finir Déborah Lévy, on pourra en parler la semaine prochaine, faut que je décante. Mais oui, mais je vais te parler de cinéma, mais je vais aussi te parler de théâtre. Mm-hmm. J'ai comme vu dans les dernières semaines une espèce de triptyque ish là, qui se répond plus ou moins là, autour de, en fait tout ça a commencé avec la projection il y a quelques semaines de Gaspard Blues au Cirque Beaumont, dont j'ai parlé déjà quelques fois, mais je répète, c'est une initiative bon, l'Antitube, etc., là, tout ce mm-hmm. monde-là dans Méduse. Hein.
Voilà, la salle dans Méduse, de projection se retrouve dans ce complexe.
Oui, c'est ça, ouais. Exactement. Qui a quand même une programmation que je trouve hyper variée, tant au niveau temporel que de type de cinéma, que de localisation. Bref, on a juste hâte qu'il y ait des chaises plus confortables, mais ça va quand même. Donc, il présentait Gaspard Blues, qui est un film réalisé par Louis Bélanger, avec, dans lequel joue Serge Thériault, qui joue six moments dans La Petite Vie. Puis, la raison pour laquelle bon, ils ont mis ces films-là à la programmation, c'est parce que quelques jours plus tard, au cinéma Beaumont, au Circuit Beaumont toujours, c'était Dehors, Serge Dehors.
Ah oui,
qui était présenté, puis les deux films étaient présentés avec un Q&A. Moi, j'avais vu Gaspard Blues quand j'étais enfant, il y a donc pas très longtemps justement là. Le film sorti en 2003. C'est l'histoire d'un père qui a le Parkinson, dont la femme est décédée, qui a quatre enfants, trois garçons, une fille, puis il run, se fait appeler Boss, une espèce de station de service qui se passe dans... en fait, qui est dans Limoilou, à l'heure où, justement, c'est les pompistes sont en train de mourir parce que c'est les libres-services.
Ouais.
Puis, c'est une œuvre dans le cinéma québécois qui est pivot au niveau de la figure du père. Et en parlant dans le Q&A, où la figure du père est plus dégueulasse. Mm. C'est un père qui est présent, c'est un père qui est aimant, et c'est un père qui est très doux.
Mm.
Puis qui refuse la violence, qui aime pas quand on sacre, qui dit à un moment donné, ça a jamais marché à coup de coups sur la margoulette, on s'est jamais tapé sur la margoulette, quelque chose comme ça. Qui dit qu'il aime à ses fils, puis qui se bat contre une espèce de violence du temps qui passe trop vite, wow. Contre une espèce de grosse machine qui l'avale. Puis là-dedans, Serge Thériault est extrêmement touchant. Ça faisait longtemps que j'avais pas été touchée par une performance d'acteur comme ça. Mmh. Ce qui nous amène à Dehors, Serge Dehors, qui est un film hyper difficile à voir parce que, en fait, Dehors, Serge Dehors est disponible sur aucune plateforme de streaming. Il faut aller le voir quand il est présenté. Mmh. Donc, Serge Thériault, pour celles et ceux qui ne le savaient pas, moi, je ne savais pas, en fait, avant de voir l'abandonnance de ce film-là, vit, en fait, une dépression sévère depuis plusieurs années. Il ne sort pas de chez lui. Mmh. Donc, c'est... les réalisateurs Martin Fournier puis Pierre-Luc Lafontaine qui ont réalisé ça. En gros, ils ont commencé en parlant avec la femme de Serge, Anna, puis éventuellement avec les voisins. Puis il y a un tas de questions éthiques. Puis ça, j'étais un petit peu déçue dans le Q&A parce que je trouvais que les réalisateurs écartaient beaucoup les questions éthiques en disant « Oui, mais c'est pas ça, nous, on faisait le film pour Anna. »
Est-ce que Serge est à l'aise qu'on parle de lui comme ça?
Il a accepté, finalement, mais au départ, il le savait pas, puis... Je trouve que c'est un peu hypocrite, sachant que dans la salle, il y a juste des gens qui étaient là parce que c'était pas les mêmes personnes qu'habituellement. Ils étaient là parce que le film parlait de Serge Thériault, mm-hmm. parce que c'est un acteur qu'on aime.
Ouais.
Puis il y a beaucoup de... Après ça, c'est super intéressant. Comment tu filmes quelqu'un qui est pas là? Comment tu fais sentir sa présence? Comment tu fais sentir son absence? Comment tu joues avec ça pour pas que ça devienne trop lourd non plus? C'est vraiment un film qui m'a touchée. Après ça... que j'aurais jamais fait, parce que c'est difficile, tu sais, comment on parle des autres, etc. Mm-hmm. Puis malheureusement, hier, terminait finalement l'espèce de troisième œuvre du triptyque que je me suis moi-même construit. Là. Donc, il y avait une pièce, la pièce Gaspard Blues, qui était à la Bordine, un projet avec du CEP à Montréal. Puis c'est un spectacle musical, au sens où les comédiens jouent de la musique sur scène en permanence. La plupart des comédiens ont appris un instrument. On espère qu'il va y avoir des supplémentaires ou une retournée éventuellement parce que le spectacle est malheureusement terminé.
Merci beaucoup, Amy, pour ce retour sur ton triptyque avec Gaspard Blues et Serge... Thériault.